R22 Tout Monde, antenne, la galerie de Noisy-le-Sec.
Bonjour. Je voudrais commencer par ce projet d'architecture qui est l'un des projets les plus qui a été les plus commentés de ces dernières années, les plus publiés, les plus discutés. C'est un projet de stade qui a été réalisé par Zaha Hadid pour la Coupe du Monde au Qatar et pour lequel on a essentiellement dit des choses comme ça. C'est-à-dire que l'architecture a été explicitement décrite comme imitant la femme, imitant la mère, imitant les organes reproducteurs de la femme. J'aimerais, à partir de cet exemple, dire qu'en fait, il n'est peut-être pas surprenant et peut-être qu'il n'est que l'aboutissement extrême, formel, explicite de toute une pensée de l'architecture dans un rapport au genre. Sachant que l'hypothèse plus sérieuse que j'aimerais proposer, c'est de dire que toute cette histoire de l'architecture est peut-être obsolète, peut-être terminée, et dans ce cadre me placer plutôt dans la suite de l'architecte Rem Koolhaas, qui estime que l'architecture telle qu'on la connaît est en difficulté, ce sont ses termes, dans ce texte Bigness, mais que ça ne doit surtout pas signifier qu'il faut compenser par des régurgitations d'architecture. Et du coup, faire l'hypothèse que le projet de Zaha Hadid est une régurgitation de quelque chose, en proposant que l'obsolescence de toute cette idée de l'architecture, elle peut être liée à un passage d'une culture technique à une culture numérique. Les histoires que Jean-Charles a racontées, ses relations qu'il entretient avec son travail, peuvent évoquer ce que Donna Haraway, dans texte féministe célèbre du féminisme américain, le Manifeste Cyborg. Elle parle d'accouplement fâcheux et délicieusement fort. Elle parle de la bestialité qui obtient un nouveau statut. Donc elle raconte d'autres modalités d'accouplement, autres que celles classiques, biologiques, hétérosexuelles, des modalités de reproduction non filiale, pour reprendre un terme qu'utilisait Vanessa pour parler de Jean-Charles. Et dans ce cadre, la reproduction sexuée, nous dit Haraway, devient une stratégie de reproduction parmi d'autres. Donc c'est le temps du cyborg qu'elle appelle de ses voeux. Et plus généralement, le cyborg est la figure d'une culture des nouvelles technologies, c'est son terme, donc une culture numérique, qui doit permettre, selon Haraway, de dépasser, de mettre un terme à toute une série de dualismes qui sont fondateurs de l'histoire précédente entre masculin et féminin, entre humain et machine, et plus généralement entre nature et culture. Toute une série de dualités qui sont devenues très vagues, selon Haraway. Il est difficile, je la cite, de savoir où s'arrête l'esprit et où commence le corps dans des machines qui se dissolvent en pratique de codage. Haraway, par ailleurs, nous suggère que cette histoire est aussi peut-être spatiale, architecturale, puisqu'elle elle le dit très brièvement, mais elle nous dit que c'est aussi le modèle d'un homme dans l'espace. Donc est-ce que ça veut dire que l'architecture, historiquement, un travail de fabrication de certaines modalités d'accouplement plutôt que d'autres? Est-ce que l'architecture a un rôle moral dans la fabrication de comportements jugés moraux? Un peu dans la suite de du travail de David Watkin sur l'architecture moralisatrice qui a inspiré un album de Orchestral Manoeuvre in the Dark. Mais en même temps, si c'est le cas, est-ce que l'architecture peut suivre le chemin proposé par Haraway et passer à un âge numérique dans lequel l'architecture pourrait plutôt accompagner des nouvelles formes d'accouplement plutôt fâcheux, comme le suggère cette couverture de Architectural Design dans les années 60, voir est-ce qu'il y a une autre histoire spatiale qui a toujours été là, qui accompagne d'autres sexualités moins morales. C'est un peu le travail que initie Jonathan Goldberg dans ce très très beau livre qui s'appelle Sodométrie. Le travail de Hadid, je pense qu'il peut représenter toute une histoire de l'architecture dans un rapport à la femme. En fait, il faut le comprendre, on peut le positionner dans un mouvement depuis une vingtaine d'années de production architecturale assez particulier, qui a commencé avec des praticiens très spécifiques qu'on appelle des architectes du numérique, c'est-à-dire qui produisent des formes dont le statut n'est pas clair. On ne sait pas trop si elles ont vocation à être construites ou pas, ou si elles ont vocation à rester dans un environnement virtuel. Donc c'est des gens comme Greg Lin ou comme Marcos Novak qui ont initié la production de formes courbes, souvent qualifiées d'organiques, même si on ne sait pas très bien ce que ça signifie, des formes enveloppantes, closes, et qui sont décrites dès le début comme féminines ou maternelles, voire utérines parfois. Avec un aboutissement qui est la maison embryologique de Greg Lin, donc dans laquelle on est vraiment à l'intérieur du lieu de la reproduction. Ce sont des espaces qui sont a priori plutôt satisfaisants, protecteurs, mais quand on va voir un petit peu la manière dont la maison de Lin est fabriquée, c'est un système de dents qui tient les éléments entre eux, donc c'est un petit peu moins rassurant, et ça peut être interprété comme une réactualisation du vagina dentata. Donc il y a quand même une ambiguïté de ce type de proposition. Et surtout, je vous raconte cette période de projet parce qu'elle a une influence importante sur des architectes qui ont construit dans le monde physique. Par exemple, Norman Foster, architecte anglais. Avec par exemple il y a ce projet de bibliothèque qu'il a réalisé pour l'université de Berlin, qui est un peu un archétype de ce modèle de la forme enveloppante, close sur elle-même, courbe. Et un autre projet réalisé l'année dernière, très célèbre, qui est le projet qu'il a réalisé pour le campus d'Apple en Californie. Donc où on retrouve pas mal de choses dans l'idée d'une forme qui est refermée sur elle-même, qui ressemble énormément à, en plus dans l'iconographie choisie par Foster, même si c'est une référence qu'il revendique pas du tout, qui ressemble à l'ancienne ville de Bagdad, la ville ronde de Bagdad, qui était la ville des mathématiciens, des ingénieurs, des astronomes, et qui notamment a été la ville d'un mathématicien qui s'appelle Al-Khwarizmi, qui a donné son nom à l'algorithme. C'est une forme qui est qualifiée de mothership par les personnes d'Apple elles-mêmes, donc il y a encore ce lien, en tout cas par le nom à la mère. Et surtout, c'est un projet qui est intéressant parce qu'il rend plus explicite quelque chose qui était déjà présent dans les projets précédents, mais de manière moins claire. Tout l'intérêt du projet pour Foster, c'est ce qu'il y a dans son centre, au centre de l'enveloppe, il y a un jardin dans lequel il a tenu à planter des arbres fruitiers qui auraient disparu. Et il a voulu faire, c'est son terme, une corbeille de fruits que la Californie a un jour été et qui ne l'est plus. Donc il y a une dimension nourricière qui est explicitée, qui rend encore plus ambiguë l'équivalence entre la mer nourricière, la terre nourricière et l'architecture nourricière. En fait, ce projet de Foster peut être vu comme une mise en forme idéale d'un modèle de l'habité très, très puissant, qui est le modèle grec, le modèle qui a été proposé à l'occasion de l'invention d'Athènes, qu'on peut lire notamment avec Nicole Leroux, qui est une très grande helléniste, féministe, dans un livre notamment qui s'appelle « Né de la Terre », qui nous raconte qu'à l'occasion de la fondation d'Athènes, il y a une certaine type de modalité d'émergence de l'humain qui a été proposée avec la notion de fusis, qui est une fusis, ça signifie l'enracinement, c'est un terme d'abord biologique qu'on utilise pour les plantes, et qui a été déplacé vers l'homme. Donc l'homme est considéré comme enraciné dans la Terre et comme défini... Son identité est définie par son accroche, son enracinement. Et c'est plus globalement l'idée que le sol, que la cité, que l'architecture transmet à l'homme une identité qui est déjà faite. Et c'est le modèle plus globalement de l'autochtonie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la place de la femme dans cette histoire. Notamment la fondation d'Athènes, il y a plusieurs anecdotes qui sont enrichissantes. Par exemple, il y a une bataille entre Athéna et Poséidon qui voulaient tous les deux se disputer le parrainage de la ville. Poséidon a proposé la création d'un espace maritime qui aurait permis aux Athéniens de se mettre en mouvement, d'aller conquérir le monde, de se déplacer. Et Athéna a proposé un olivier, de faire pousser un olivier. Et les Athéniens ont choisi l'enracinement de l'olivier plutôt que la possibilité de se déplacer par la mer. À la suite de cette histoire, deuxième élément, les femmes athéniennes ont perdu le droit de vote, mais elles l'ont perdu pendant longtemps, puisque avant l'intervention des dieux, les femmes athéniennes avaient le droit de vote. Et une autre histoire qui est plus célèbre, qui est celle qui encore concerne Athéna, mais cette fois avec son frère Héphaïstos. Héphaïstos faisait la cour à Athéna de manière un peu insistante. Il a fini par éjaculer sur sa cuisse. Athéna s'est essuyée, a jeté le mouchoir par terre. Et de la rencontre entre le sperme d'Héphaïstos et le sol, est né le premier Athénien, premier roi d'Athènes. C'est-à-dire que la femme est écartée dans sa fonction reproductrice. Et la fonction reproductrice est transmise de la femme à la cité, au sol, à l'architecture, à la ville d'Athènes. C'est une histoire Marcel Détienne en parle très bien aussi, qui a l'idée de construire artificiellement une filiation commune pour tous les Athéniens, qui se permet de se passer de la femme. Il s'agit, selon Détienne, de les persuader qu'ils sont formés et élevés au sein de la terre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que si la femme est immédiatement exclue en tant que citoyenne, elle y revient d'emblée, immédiatement, en tant que modèle, que métaphore pour penser la cité. Et par ailleurs, c'est cette idée de la femme qui a sacrifié pour rendre possible l'architecture. C'est une idée qu'on retrouve dans d'autres cultures et dans d'autres récits fondateurs. Par exemple, la légende du maître Manol, qui est illustrée ici, qui est une légende roumaine très importante dans toute la culture de l'habité dans l'Europe de l'Est. C'est un bâtisseur d'église son église s'écroulait systématiquement, et la seule solution qu'il a trouvée, parce qu'il l'a eu dans un rêve, c'est d'enterrer sa femme pour que la vie soit transférée de la femme à l'architecture. Donc l'architecture d'emblée est le tombeau de la femme, et c'est des choses qu'on retrouve aussi chez Thomas Bernhardt dans au moins deux de ses romans. Et donc on peut relire avec cette histoire-là, on peut comprendre les projets contemporains dont je vous ai parlé comme des explicitations extrêmement littérales de cette architecture comme reproduction de la mer. Et puisqu'avec Marcos Novak, qui est l'un des plus grands tenants de ce type d'architecture, il va jusqu'à parler d'une architecture qui transmet un code génétique aux habitants. Donc on est vraiment dans la prise en charge du rôle de la mère. Platon lui-même a expliqué que toute cette histoire de l'autochtonie, de la fusis, c'était un mensonge qui était nécessaire, selon lui, pour façonner la mythologie de l'État, c'est son terme. Je vais passer par Émile Benveniste, donc un grand linguiste, qui a analysé deux modèles linguistiques de la cité. C'est un tout petit texte. En fait, il oppose le modèle grec, qui est... Donc c'est une analyse linguistique, c'est-à-dire un mot à donner l'autre. La polis donne le politesse, c'est-à-dire la cité donne le citoyen, donc c'est un peu ce qu'on a trouvé. Le citoyen est défini par la cité qui est déjà là. Et il y oppose l'étymologie latine qui fonctionne différemment, où c'est le citoyen qui a donné la cité. C'est un modèle très différent dans lequel l'homme est libéré de son accroche au sol. Et c'est l'histoire célèbre qu'on retrouve plusieurs fois dans Astérix. Un Romain, s'il est en dehors de l'enceinte de la ville, le sol qu'il foule est Rome. Ça permet à l'homme de se déplacer, et c'est l'idée qui est rendue possible de l'homme qui peut apprendre son identité lui-même par son déplacement, par son mouvement, plutôt qu'une identité qui lui est transmise par la ville. Et c'est un modèle qui est intéressant pour analyser une deuxième période de projet. En fait, le cas de Foster et de Berlin est intéressant parce que si on si on dézoome, en fait, Foster a inséré son projet dans une architecture qui est absolument un modèle opposé, qui est produite par des architectes très importants des années 60, Candilis, Shadrack et Woods en 1963. Donc c'est une architecture de la trame qui est explicitement pensée par les architectes comme devant permettre le mouvement des usagers et par le mouvement devant permettre leur apprentissage. C'est une architecture qui représente bien donc une deuxième période de projet par des architectes qui sont tout autant baignés et influencés par les recherches numériques et informatiques, mais qui ont produit des choses absolument différentes. Donc c'est voilà le plan de Candilis. C'est une très rapidement, c'est une période qui a été qui est passionnante parce qu'il y a eu des échanges extrêmement fondateurs entre les architectes et les informaticiens. Parce que l'informatique était, pour aller vite, en train de se construire, en train de se penser. Et les informaticiens se sont tournés vers les architectes pour essayer de penser l'informatique. Et il y a eu des échanges extrêmement théoriques, épistémologiques, méthodologiques, pour construire l'informatique en prenant comme modèle l'architecture, ce qui a donné lieu au déplacement très rapide du terme, puisqu'on en est, ils en sont arrivés à parler d'architecture informatique, d'architecture d'un ordinateur. C'est une conséquence de ces échanges-là. Donc il y a eu un texte important qui est celui du cybernéticien Gordon Pask, qui raconte un peu cette histoire et qui essaye de défendre l'idée de l'architecture comme un modèle pour la cybernétique. Et Pask, il a travaillé avec beaucoup d'architectes, dont Cédric Price, par exemple. Et à gauche, vous avez la première mention, en tout cas d'après ce que j'ai trouvé, du terme architecture pour décrire l'architecture d'un ordinateur par un ingénieur d'IBM en 1964. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que les architectes qui étaient impliqués dans ces échanges ont produit une architecture qui a était extrêmement influencé par ces échanges. Le déplacement de l'architecture vers l'informatique n'a pas laissé indemne l'architecture elle-même. Et il y a cette deuxième période de projet, pour aller, c'est un peu caricatural, mais avec par exemple quelqu'un comme Yona Friedman, qui est un architecte français qui a beaucoup travaillé au MIT avec plusieurs informaticiens qui étaient en train de penser l'informatique. Et qui a fait cette proposition qui s'appelle la ville spatiale, dans laquelle l'architecture devient une structure qui doit permettre des itinéraires absolument libres des usagers. Donc c'est une remise à jour des notions de nomadisme, de mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, au contraire du modèle grec, on voit explicitement quelque chose qui se déracine par rapport au sol. Il y a une mise en place du déracinement qu'on retrouve aussi chez des gens comme Cédric Price, dont j'ai parlé parce qu'il travaillait avec Gordon Pask, qui produit ce type d'architecture en forme de trame et pensée pour le mouvement et pensée explicitement pour permettre aux humains d'apprendre eux-mêmes leur identité. Et il a été le rédacteur en chef d'un numéro très célèbre de Architectural Design qui s'appelle What About Learning en mai 1968. Donc il y a un déracinement de l'architecture qui permet un déracinement de l'homme et une remise à jour de l'idée de nomadisme. Et ce sont des projets qui sont allés jusqu'à des représentations très célèbres de projets un petit peu cultes d'architectes comme Archigram ou Superstudio, dans laquelle l'architecture devenait une immense trame superposée, autonome et pensée pour l'apprentissage, où là la référence au nomadisme est rendue explicite par le recours à une certaine iconographie qui n'est pas du tout anodine, qui est passionnante parce qu'elle elle montre aussi un élément intéressant de l'histoire qui est la rencontre, surtout côté californien, dans les années 60-70, entre les informaticiens et les hippies qui revenaient de leur un peu déçus par leur tentative, qui revenaient en ville. Donc tous ces tenants de la contre-culture ont rencontré les informaticiens et ont projeté dans l'espace informatique qui était en train d'arriver toute une certaine série de valeurs, d'idées, de nomadisme, d'identité construite par l'apprentissage, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans l'idée de navigateur Internet ou d'explorateur. Toute cette terminologie vient de la rencontre assez étonnante entre les hippies et les informaticiens. Tout simplement le fait que San Francisco soit devenu à la fois la capitale du numérique et la capitale des sexualités alternatives est loin d'être historiquement anodin. Et c'est des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui, par exemple, au moment de l'invention du cyberspace ou de l'espace d'Internet. Il y a encore des choses un peu qui sont des restes de cette histoire-là. Par exemple, John Perry Barlow, qui est un informaticien qui est décédé il y a quelques mois, qui était l'auteur de cette déclaration d'indépendance, dit que ne pensez pas que vous pouvez construire le cyberespace comme si c'était un projet de construction, vous ne le pouvez pas. Et il rajoute, vous êtes terrifié par vos propres enfants, car ils sont les autochtones dans un monde dans lequel vous serez toujours des migrants. Donc il y a aussi un renversement là du modèle grec, c'est les enfants qui deviennent les autochtones de cet espace-là, dont les architectes sont explicitement exclus. Mais du coup, ça veut dire que de cette première période, entre les années 50 et 70, jusqu'à la période avec laquelle j'ai commencé, avec Zahadid et autres, on serait repassé, finalement, on a un peu refait la même histoire, on serait repassé d'une idée de nomadisme et d'architecture qui permet d'apprendre son identité à l'idée d'une architecture qui transmet. Et c'est le cas de Hadid est intéressant parce que en fait elle-même dans ses productions elle a suivi ce mouvement. Ça c'est des productions qui datent d'il y a une trentaine d'années dans lesquelles elle a fait toute une série de très belles toiles. C'était sa première manière de représenter l'architecture dans laquelle on était plutôt encore dans la première période, dans la première modalité où on est dans des espaces infinis de grandes lignes qui encouragent plutôt au mouvement. Et elle en est arrivée jusqu'à cette forme qui se referme sur elle-même et qui est la reproduction du vagin. Et le cas de Hadid est intéressant parce qu'entre les deux, précisément entre les deux, chronologiquement, il y a un projet qui paraît être un intermédiaire, puisqu'on voit la trame qui commence à se déformer et qui peut éventuellement se refermer sur elle-même. Donc en fait, c'est des choses qui nous disent que les deux modalités spatiales qui apparaissent opposées sont peut-être pas si éloignées l'une de l'autre que ça, et peut-être qu'elles nous disent un peu la même chose. Il y a un projet qui est intéressant de Nicolas Schoeffer, qui s'appelle La ville cybernétique, où là on a la cohabitation dans un même espace-temps des deux modalités, puisqu'on a d'abord la ville cybernétique, c'est une ville qui est transformée en réseau, en faisceau lumineux d'informations. Donc l'architecture disparaît et devient purement informationnelle. Et en même temps, au cœur de cet espace, il y a un bâtiment qui résiste, qui est absolument organique, clos, qui est, selon Schoeffer, le centre de loisirs sexuels. Et c'est la seule forme qui résiste à la disparition de l'architecture, comme si la sexualité était la seule activité qui nécessitait encore l'architecture. Et c'est une dualité qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'ouvrages de science-fiction, par exemple dans Matrix, où on a à la fois un espace infini informationnel et un espace caverneux, physique, organique, qui est à la fois l'espace de la résistance et l'espace de la sexualité. Et le cas de Matrix, c'est intéressant parce que le terme matrice rajoute encore plus à l'ambiguïté, puisque la matrice est l'espace de l'ordinateur, mais c'est aussi la matrice et la mère. Et par ailleurs, la caverne de Matrix, elle est intéressante parce qu'il y a, comme nous disait Haraway, il y a aussi un autre type de reproduction qui se passe dans cette caverne, qui est plus complètement humain, qui est en même temps humain et machinique. Alan Turing, en fait, il va nous aider à mieux comprendre, donc très... de manière très simple, inventeur de l'ordinateur, et en tout cas plus grand artisan du passage à la culture numérique. En fait, on va retrouver dans ces textes ce passage de l'apprentissage à la transmission, puisque dans un texte très célèbre de 1950, il nous raconte que la plus grande nouveauté dans le passage de la technique au numérique, c'est l'idée de l'apprentissage et des machines qui vont apprendre. C'est ce qui distingue le numérique de la technique. Et c'est devenu aujourd'hui très courant avec le deep learning, le machine learning, mais au moment où Turing l'a annoncé, ce n'était pas du tout prêt. Et donc, à la suite de ce texte, c'est à peu près concomitant avec toute une série d'architectures qui met en valeur la notion d'apprentissage. Mais dans le même texte, Turing prévient que si c'est le cas, effectivement, c'est devenu le cas 30 ans après, si l'apprentissage devient un principe technique dominant, la notion de transmission va revenir de manière extrêmement forte. Typiquement, comment une machine peut transmettre à une autre machine ce qu'elle a appris, parce que sinon, on va pas avancer. Par exemple, il nous dit, dans le cas de la génétique, comment pourrait-on garder une trace des différentes combinaisons génétiques qui ont été essayées pour éviter de les essayer à nouveau. Et c'est effectivement, il a été assez visionnaire, c'est la question la plus traitée aujourd'hui par les informaticiens. Comment un algorithme qui apprend quelque chose peut transmettre à un autre algorithme ce qu'il a appris. Donc il y a un glissement dans l'histoire des sciences informatiques entre un paradigme de l'apprentissage et aujourd'hui qui repose à la question de la transmission, qui part à peu près concomitant avec ces deux périodes de l'architecture qui rendent un peu visible cette histoire-là. Et par ailleurs, Turing, il nous prévient aussi que la transmission reviendra, mais pas exactement de la même manière, et que ça va reposer explicitement la question des rapports entre l'humain et la machine. C'est un sujet implicite de son texte, mais il a une phrase qui est assez mystérieuse. Par exemple, il nous dit « Nous souhaitons exclure de la catégorie des machines les hommes nés de la manière habituelle. » Donc là, on se retrouve un petit peu dans la vision de Donna Haraway. Et en fait, c'est intéressant de revenir un peu dans le modèle grec, parce qu'en fait, Donna Haraway avait... si on lit bien le modèle grec, il y a une ambiguïté. Une ambiguïté, je la cite, entre la filiation, la métamorphose et la fabrication. En fait, il y a une deuxième façon de venir au monde, parce que les Grecs ont bien dû inventer pour les femmes quelque chose, une histoire, une fois qu'elles sont sorties du modèle de la cité, de la physis. Et la femme devient produite par un geste artisanal, nous dit Haraway, c'est-à-dire la femme devient technique, devient machine, c'est comme ça qu'elle vient au monde. Donc les Grecs, en inventant, en même temps qu'ils organisent la disparition de la mère, construisent le mythe originel de la femme machine, en même temps que le mythe originel de la femme architecture. Peut-être vous avez vu passer cette info récemment, le premier robot déclaré citoyen d'un pays, c'est en Arabie Saoudite. Donc c'est un exemple qui nous montre qu'il y a d'autres modalités de transmission non biologiques qui permettent désormais l'accès au statut de citoyen, qui n'est plus donné par le sol, qui n'est plus donné par la cité. C'est peut-être pas étonnant, après avoir lu Nicole Loro, que la première machine citoyenne soit une femme. Et c'est encore moins étonnant d'observer que les droits des femmes évolue en Arabie Saoudite en même temps que les droits des machines. Et par ailleurs, quand Sophia déclare vouloir un enfant, on peut se demander si elle va lui transmettre sa citoyenneté, s'il y a un droit du sang qui peut s'appliquer aux machines. Donc ces différents éléments, avec Turing, avec cet exemple, m'amènent à proposer le fait qu'il y a une vraie rupture... une vraie rupture à penser, que l'histoire ne fait pas que se répéter. Et pour ça, il faut revenir un tout petit peu avant. Avant le modèle grec, en fait, il y avait déjà toute une histoire dans laquelle le genre jouait un rôle important. Donc on peut le lire avec Jacques Ellul, par exemple, qui est un très grand penseur de la technique et qui est aussi théologien, qui nous raconte l'origine du modèle grec de l'autochtonie, de la cité. C'est le premier bâtisseur, Caïn, qui est condamné au nomadisme après avoir tué son frère. Ils ne supportent pas l'état de nomadisme et ils décident de s'enraciner, c'est un mot qui est utilisé par Ellul, qui constitue, selon Ellul, le point de départ solide de toute la civilisation. Et c'est la même naissance, nous raconte Ellul toujours, de la ville et de la technique, qui sont une seule et même production. Avant la chute de l'homme, il n'y avait ni ville ni technique, et la ville est le lieu de la technique. Donc il y a une faute originelle qui est à l'origine, une faute originelle qui lance toute cette histoire. Or, le cyborg d'Haraway, il se distingue précisément de l'humain parce que, contrairement à l'humain, nous raconte Haraway, le cyborg n'a pas commis de faute originelle. Et du coup, il ne cherche pas la rédemption, je la cite, en restaurant le jardin originel, ce qui est un petit peu ce que paraît faire Foster en recréant le jardin originel de la Californie. Et par ailleurs, si on remonte encore un petit peu plus à ce qui a causé la chute de l'homme, donc on remonte encore un peu en avant, c'est la reconnaissance de la nudité, la reconnaissance de l'altérité des genres. Ils se reconnurent, leurs yeux s'ouvrirent, ils s'aperçurent qu'ils étaient nus. Alan Turing, donc, dans le jeu de l'imitation, donc c'est un autre résonance avec le travail de, enfin avec ce qu'on dit en tout cas du travail de Jean-Charles. Donc le jeu de l'imitation, c'est le passage le plus célèbre du texte de Turing. C'est un passage très compliqué qui est à la fois un exercice littéraire, philosophique, technique, dans lequel il essaye de réfléchir au déplacement de la notion d'intelligence vers les machines. Donc il met en place un jeu dans lequel il y a un homme, une femme et une machine qui s'écrivent par message interposé. Donc c'est généralement considéré comme le texte fondateur de la culture numérique. Et l'informaticien, donc Turing, commence précisément, c'est la première étape du jeu, par annuler la possibilité de la reconnaissance de l'altérité du genre. Puisque la première étape, c'est un homme qui pourrait par exemple répondre, écrire, « Mes cheveux sont coupés à la garçonne ». C'est ce que Turing propose, pour induire son adversaire en erreur. C'est là la première étape du jeu, qui conditionne tout le développement du reste. Donc on peut faire l'hypothèse que Turing inaugure une nouvelle histoire qui est numérique et non plus technique, en commençant par annuler l'hypothèse fondatrice de l'histoire précédente, qui est une hypothèse fondamentalement genrée. Par ailleurs, il faut bien noter, même si ce n'est pas du tout un texte de gender studies, quoique c'est un aspect qui est considéré parfois comme important pour comprendre Turing, au moins dans sa trajectoire personnelle. Mais il y a un positionnement du genre qui est assez fort par rapport à toute l'évolution de la pensée féministe. C'est que ce que Turing annule dans son texte, c'est surtout pas l'altérité des genres, mais c'est la possibilité de reconnaître l'altérité des genres. Donc il y a une pensée qui ne fait pas du tout abstraction du genre, comme c'est devenu assez courant, mais une pensée qui fait du genre un implicite, quelque chose qui n'est pas forcément dit. Pour comprendre un tout petit peu mieux, et c'est il y a un texte qui est un petit peu plus complexe, mais qui est fondamental. C'est pour comprendre ce positionnement du genre dans le cadre de la pensée numérique, plus généralement, qu'on appelle aussi la pensée computationnelle. Ça, il faut revenir à un texte qui est très complexe, mais je vais vous le faire en 2 minutes, qui est la thèse de doctorat Turing qu'il a présentée en 1938 à Princeton, dans laquelle il propose donc le modèle computationnel qui est à la base de tout le fonctionnement des machines et des ordinateurs. Donc très simplement, c'est un modèle mathématique qui prend la suite de toute la pensée classique mathématique, donc qui détermine toute la manière dont les ordinateurs raisonnent. Donc Turing met en place un modèle logique. Et ce qui est très intéressant et important, c'est de voir que Turing construit ce modèle non pas du tout comme quelque chose d'abstrait, mais comme une représentation de la manière dont les humains raisonnent. Et le plus décisif, en tout cas ce que j'en retiens, la différence principale entre la, la pensée mathématique classique et le modèle computationnel numérique que Turing met en place, c'est le déplacement de la notion de signification, qui globalement, la notion de signification traditionnellement était attribuée à un objet qui est pris dans un modèle. Comme pour le langage, un mot a une signification qui est explicite, qui est déterminée. Et c'était le cas, c'était pareil pour les mathématiques. Turing propose que la signification devienne un implicite. Par exemple, il nous dit « nous laisserons les formules sans signification explicite, explicit meaning, une signification implicite, implicit meaning peut éventuellement être suggérée ». C'est-à-dire, en fait, si on... c'est un travail qu'il faut faire, en tout cas que je fais en analysant Turing avec l'aide de Wittgenstein, qui est un exercice intéressant parce que les deux se sont vraiment rencontrés juste après la thèse de Turing. Turing est reparti à Cambridge, a assisté à des cours avec Wittgenstein, et il y a dans ce livre qui est assez incroyable, il y a des échanges directs entre les deux. Où ils réfléchissent à ce qui est en train de se passer. Donc c'est l'idée qu'on retrouve chez Wittgenstein aussi, que la signification n'est plus liée au modèle, mais qu'elle est liée à l'usage de ce qu'on fait du modèle. Donc est-ce que le genre peut être pensé dans ce cadre plus général, comme dans la pensée numérique, comme quelque chose qui n'est pas donné, qui n'est pas nécessairement connu des autres, et dont on fait librement usage, plutôt que comme quelque chose qui est déterminé par le modèle de pensée. Et pour terminer, je voudrais proposer que cette pensée numérique soit aussi l'opportunité pour répondre un peu au problème de Koulas qui dit que l'architecture connaît des difficultés. Est-ce qu'on a là, avec Turing, avec Wittgenstein, un cadre pour... poser les bases d'une nouvelle histoire de l'architecture en s'appuyant sur cette notion, sur le déplacement de la notion de signification. On peut le faire avec Peter Eisenman, architecte américain, qui est l'un des plus importants dans la compréhension, en tout cas, de ce que peut être l'architecture dans un contexte numérique. Il nous raconte que traditionnellement, le travail de l'architecture, c'était de rendre visible, de concrétiser la vision, de l'expliciter. Et surtout, il nous dit que ce que l'architecture devait expliciter, c'est sa signification. Il le situe à Vitruve, au moins. Depuis Vitruve, l'architecture ne doit plus seulement tenir, par exemple, mais elle doit surtout avoir l'air de tenir, look like. Donc l'architecture doit explicitement montrer sa signification, son rôle. Ça, c'est l'histoire classique, l'histoire mécanique que raconte Eisenman, et il propose un autre modèle, un paradigme électronique, donc numérique. Il nous dit des questions alors comme celles de la signification ne sont plus pertinentes, mais ça ne veut surtout pas dire qu'il veut éjecter la signification. Comme Turing et comme Wittgenstein, la signification va être déplacée vers quelque chose qui est de l'ordre de l'usage, de l'implicite, puisque Eisenman nous dit il s'agit maintenant de fabriquer un espace qui n'a pas l'air de signifier quelque chose. It doesn't seem to mean anything. Par exemple, un toit n'a plus nécessairement l'air d'un toit. Donc on a un même déplacement de la signification à partir duquel je propose de faire l'hypothèse, mais qui reste évidemment à travailler, que ça peut être une pensée queer de l'architecture. Et là-dessus, je remercie l'équipe de la galerie, Jean-Charles, Vanessa, de m'avoir invité. Merci.